Chapitre 2. Avant de regagner la maison, Célanie ouvrit la grille d'entrée, car l'heure approchait où les clercs allaient arriver, et elle tenait à épargner ses pas, ayant durement à trimer du matin au soir, dans cette place où elle devait tout faire, ménage, cuisine, blanchissage, entretien du linge et service de table. Le temps n'était plus, en effet, où, sous la douce autorité du bonhomme Rotin, les clercs jouissaient d'une liberté à peu près complète, arrivant, partant quand il voulait, si bien qu'on avait fait une chanson qui reposait sur un fond de vérité. Les clercs de Maître Rotin ne sont jamais à l'étude, ils partent dès le matin. Maintenant, la variante était « arrive dès le matin ». D'abord le caissier, Boulnois, régulièrement le premier, parce qu'il tenait à montrer du zèle, puis la Vaupalière, le principal, et Fauchon, le second clerc, qui, demeurant ensemble à l'autre bout de la ville, à l'hôtel de la Renaissance, se trouvaient parfois en retard de quelques minutes, bien qu'ils sussent que cela leur vaudrait une algarade du patron dont la parole était raide. C'est que la manière de pratiquer le notariat de Courteheuse ne ressemblait en rien à celle de son prédécesseur. En effet, le père Rotin, notaire aussi peu que possible, était plutôt l'ami ou le conseil de ses clients, à qui il ne faisait faire que les actes strictement indispensables, et encore en était-il un grand nombre qu'il parvenait à esquiver. Quand un client le surprenait dans son étude, ce qui était rare, car il passait presque tout son temps à surveiller ses plantations dans les falaises d'Orival, où il avait créé de magnifiques clos de pommiers, il ne pensait qu'à se débarrasser de lui. « Vous voulez voir Alexis ?» était toujours son premier mot, comme le second. « Je vais vous confier à Alexis. » Et comme Alexis se trouvait depuis 30 ans dans l'étude où il était entré gamin, personne n'osait dire qu'on voudrait bien avoir affaire au patron lui-même, occupé ce jour-là plus encore que les autres, dans sa côte d'Orival, où il filait au plus vite. Son aversion pour le travail écrit était si vive qu'on pouvait compter les minutes de sa main qui, après 40 années d'exercice, se trouvait dans les volumes tassés sur les rayons de l'étude. Il poussait cela si loin que les clients qui voulaient faire leur testament étaient ses bêtes noires. « Je vais vous confier à Alexis qui vous donnera un modèle que vous n'aurez qu'à copier. » Malheureusement, il s'en trouvait dans le nombre qui, ne sachant pas écrire, ne pouvait pas copier le modèle. Alors il employait des moyens de comédie pour retarder le moment où il serait obligé de prendre la plume, le testament étant le seul acte qui doit être écrit de la main du notaire lui-même. « Avec une mine pareille, faire un testament, vous n'y pensez pas. Repassez dans 10 ans. » Un jour, une vieille femme qui l'avait renvoyée 20 fois s'était si bien établie dans l'étude, déclarant fermement qu'elle n'en sortirait que son testament fait, qu'il avait dû s'exécuter et, les témoins réunis, prendre la plume. 8 jours après, elle était morte. Alors, pour la première fois frappé dans sa conscience, il avait pesé le poids de la responsabilité qu'il encourait par son apathie et, comme c'était le plus honnête homme du monde, décidé de ne pas rester plus longtemps notaire. 3 mois après, il vendait son étude à Courteheuse et pouvait se donner entièrement à ses chères plantations. Avec celui-là, changement complet. Le tranquille notariat s'était immédiatement transformé en une usine à affaires toujours sous pression. Malgré son indifférence, le père Rotin gagnait encore 18 à 20 000 francs par an, ce qui lui avait permis de vendre son étude 100 000 francs. Mais ni ce produit ni ce prix n'étaient pour satisfaire Courteheuse, pas plus dans son activité que dans son ambition. En 3 ans, il fallait que les bénéfices et la valeur de sa charge eussent doublé, en 6 ou 7 ans qu'ils eussent triplé. Alors, il quitterait Oissel pour acheter une étude à Rouen ou au Havre et passer au premier rang. « Gagner de l'argent » était le mot qui revenait sans cesse sur ses lèvres, le refrain qu'il se répétait machinalement, sans avoir conscience de ce qu'il se disait, mais qui, précisément par cela même, traduisait fidèlement sa pensée, ses préoccupations et le but de sa vie. Pour gagner cet argent, il avait pris le contre-pied de ce que faisait le père Rotin. Maintenant, tous les dimanches, un gros déjeuner solide et plantureux était servi sur la table du jeune notaire et tous les clients qui valaient une invitation pouvaient en prendre leur part. Avec eux, ils se montraient ronds et bon enfant, leur tapaient sur le ventre, écoutaient leurs histoires, acceptaient leurs invitations et, gaiement, tenaient tête aux buveurs les plus intrépides. « Pas fier, le nouveau notaire !» avait été le premier jugement porté et colporté sur lui dans le pays, comme le second avait été « pas cher ». Car il avait eu l'adresse de persuader ses clients qu'il réduisait les frais, ce qui était vrai jusqu'à un certain point pour le détail, mais complètement faux pour le total. Ses relations et son entregent lui avaient amené des clients de Rouen et d'Elbeuf, mais comme ce n'était pas encore assez, un ancien commis voyageur en denrées coloniales qu'il avait pris pour caissier, le père Boulnois, né dans la contrée où il connaissait tout le monde, lui en racolait d'autres dans les cantons voisins, en visitant après décès ou avant mariage les familles que lui signalaient les greffiers des mairies, engagés par une prime à se faire les courtiers du notaire d'Oissel. Pas cher, vous savez, et pas fier. En tout cas, était-il fort dur pour ses clercs comme pour lui-même d'ailleurs, et sous sa direction, fallait-il que tout marchât avec une régularité parfaite, à l'heure, à la minute. La grille ouverte, il alla se mettre sur le pas de la porte pour voir si ses clercs arrivaient, et comme il ne les aperçut point, il s'occupa en attendant à examiner à l'extérieur le mur au-dessus duquel était bâti le kiosque, pour chercher si son ravalement ne lui révélerait pas quelques traces d'escalade. Mais il y avait tant d'écorchures à ce mur que leur nombre même leur enlevait toute signification. De quand dataient-elles? Qui les avait faites? C'était ce que l'on ne pouvait déterminer. À ce moment, arriva Boulnois qui se hâtait. Au lieu de le laisser se diriger vers l'étude, Courteuse, qui était entrée avec lui dans le jardin, l'appela près de l'escalier du kiosque et lui montra l'empreinte creusée dans la terre. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda-t-il. « Ça ? Je n'ai pas mes lunettes. Êtes-vous aveugle ?» Cette question força Boulnois de répondre. Aveugle, on ne tarderait pas à le renvoyer. « Ce serait un trou que cela ne m'étonnerait pas. » « Un trou de quoi ?» Boulnois aussi était normand. « Ah, voilà » dit-il. « Vous voyez bien que c'est une empreinte de bottes ou de souliers. »« C'est vous qui l'avez dit. Mais comment se trouve-t-elle là ?»« Elle se trouve là parce que quelqu'un est entré cette nuit dans le jardin. »« Qu'est-ce qui serait entré ?»« Un voleur. » »« On a cherché à voler ou à préparer un vol ?» Boulnois regarda son patron avec plus de curiosité que de surprise. « Vous avez entendu du bruit cette nuit ? » demanda-t-il. « 2 heures à peu près avant l'aube, j'ai été éveillé par quelque chose qui ressemblait à un bruit de porte. J'ai écouté de nouveau assez longtemps, mais sans rien entendre. Alors j'ai allumé une bougie et me suis levé. Puis je suis passé dans la chambre de ma femme pour lui demander si elle avait entendu quelque chose. » Elle dormait et n'avait rien entendu, ce qui n'a rien d'étonnant, car son bon sommeil est le matin, tandis que le mien est le soir. Comme ça, la maison est bien gardée. Certainement, c'est ma lumière qui a dérangé le voleur, soit au moment où il se préparait à forcer un volet, soit pendant qu'il prenait une empreinte pour revenir avec de fausses clés, ce qui me paraît plus probable. Mais si telle est leur intention, ils trouveront à qui parler, car aujourd'hui même, je vais envoyer de Rouen des ouvriers pour fermer la maison avec des appareils électriques. Ils ne recommenceront pas ici ce qu'ils ont fait à Beauce et à Buchy. Si les ouvriers arrivent avant mon retour, vous leur montrerez toutes les ouvertures, aussi bien au rez-de-chaussée qu'au premier étage. » Les autres clercs venaient d'entrer dans le jardin. Boulnois les suivit et, dans l'étude, sans perdre de temps en flânerie préparatoire, chacun se mit au travail. Mais presque aussitôt, 2 coups de timbre résonnèrent dans le cabinet du patron, ce qui était un appel pour le second clerc. « Attention à vous, Fauchon !» dit le premier clerc. « La main du patron est nerveuse, gare !» Sans répondre, le second clerc monta les marches du cabinet en levant les bras au ciel. « Vous avez écrit les lettres dont je vous ai donné la liste hier ?» dit Courteuse. « Oui, monsieur. Donnez-les-moi que je les signe. » Mais avant de signer, il les lut. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » dit-il en montrant un P. « Un P ? Vous écrivez président avec un petit P ? Président, substantif commun, petit P. Les substantifs communs n'ont rien à voir là-dedans. Il y a des fonctions qui sont communes comme il y en a qui sont distinguées. Président, directeur, fonction distinguée, des lettres capitales. Recommencez-moi vos lettres. Après le tour du second clerc, ce fut celui du premier, puis du caissier. Chacun eut son algarade. Enfin, à 9 heures, Courteheuse traversa le jardin, sa serviette noire sous le bras, pour s'en aller à Rouen, comme tous les vendredis, qui est le jour où les notaires de l'arrondissement font leurs courses en ville et se rencontrent dans la salle des pas perdus du palais de justice. Au bruit de la grille, Boulnois leva la tête. « Vous savez qu'il y a du nouveau ? Le patron a trouvé ce matin l'empreinte d'un soulier d'homme dans la plate-bande du kiosque et il croit que des voleurs se sont introduits cette nuit dans le jardin. Il se serait sauvé quand le patron, qui avait entendu du bruit, a allumé sa bougie. » Boulnois parlait en regardant le maître clerc d'un air chafouin et narquois. À ce mot, il crut remarquer un éclair dans le regard de la Vaupalière. « Ce n'est pas tout, continua-t-il. Il va envoyer de Rouen des ouvriers pour qu'on ferme toute la maison au moyen de l'électricité. » « Et comment ferme-t-on une maison au moyen de l'électricité ? » demanda Fauchon. « Connaissez-vous ça, la Vaupalière ? » ?»« J'ai vu ce genre de fermeture aux environs de Paris. Toutes les portes et les fenêtres sont réunies par des fils qui aboutissent à une sonnerie trembleuse. Dans la feuillure de ces portes et de ces fenêtres, on pose une sorte de bouton qui, aussitôt qu'il n'est plus serré, c'est-à-dire aussitôt qu'on ouvre la porte ou la fenêtre, met en marche la sonnerie. « Alors, personne ne peut entrer, » dit Fauchon. « Ni sortir, » ajouta Boulnois en regardant la Vaupalière. « Ouvre-t-on les portes autrement pour sortir que pour entrer ?» répondit celui-ci en haussant les épaules.